La Société des Compagnons pour l'Évangile présente la Confession de foi de La Rochelle par le pasteur Pierre Courtial, cours pour laïcs donné par le Centre de formation chrétienne à la Faculté de théologie protestante de Paris.
Les articles 6, 7 et 8 de la Confession de foi des Églises réformées en France. Ces articles ont reçu chacun un titre, et même l'article 7 a un sous-titre, porte un sous-titre. Alors, si vous voulez bien, nous prendrons ces articles un par un, et je commencerai par l'article 6, la Trinité. Cette Écriture sainte nous enseigne qu'en la seule et simple essence divine que nous avons confessée, il y a trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, cause première, principe et origine de toute chose, car elle possède une essence, une éternité, une puissance identique et sont égales en gloire et en majesté. Nous acceptons ne serait pas vraiment Dieu. L'œuvre du salut est l'œuvre exclusive de Dieu, c'est Dieu seul qui sauve. Et Dieu qui sauve, c'est en même temps le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est justement l'incarnation du Fils éternel de Dieu en Jésus-Christ. Et la venue au jour de Pentecôte du Saint-Esprit qui font que l'Église chrétienne, dans les apôtres du Nouveau Testament, sans aucune hésitation, proclame la divinité du Fils et la divinité du Saint-Esprit, reconnaissant dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit le seul et unique Dieu. Seulement, pour les chrétiens, à certains moments des premiers siècles et encore d'autrefois au long des siècles, cette révélation biblique de l'unique Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, a fait quelquefois ou provoqué quelquefois des problèmes. En particulier, l'Église a connu une crise dont nous nous sommes déjà entretenus l'an dernier et qui est la crise de l'arianisme. Arius a enseigné que Jésus-Christ n'était pas Dieu, ne pouvait pas être Dieu comme Dieu le Père. Et beaucoup de chrétiens, évêques et pasteurs en tête, ont suivi Arius. Et il a fallu le combat d'Athanase en Orient, d'Hilaire en Occident, pour que le peuple chrétien confesse à nouveau dans la reconnaissance du salut qu'il nous a apporté la divinité de Jésus-Christ. Mais l'arianisme, un temps, fut vainqueur. Et il fallut un lourd et dur et difficile combat pour qu'à nouveau l'Église reconnaisse la divinité de Jésus-Christ. Puis ensuite, parce que certains la niaient, la divinité du Saint-Esprit. Mais le Nouveau Testament, quant à lui, est clair sur ces deux points qui forment ensemble la Trinité. Premier point, il n'y a qu'un seul Dieu. Deuxièmement, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et si le mot Trinité ne se trouve pas dans le Nouveau Testament, la Trinité est là, présente à toutes les pages du Nouveau Testament. Il est tout au long question de Dieu, de l'unique Dieu, et de la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Nous allons essayer maintenant de saisir quelque chose de l'importance de la doctrine trinitaire dans l'Église. D'abord, nous nous trouvons devant cette réalité que le Dieu que nous adorons, pour être un Dieu unique, est cependant un Dieu vivant, un Dieu de surabondance et de vie. Et en ce sens, si Dieu est singulier, Dieu aussi, d'une certaine manière, est pluriel. Évidemment, dans l'Ancien Testament, les choses n'apparaissent pas encore dans toute leur clarté. On comprend d'ailleurs fort bien pourquoi. Au milieu de tous les peuples polythéistes et de tous les peuples païens, le peuple d'Israël a dû être affermi dans la certitude et dans la foi au Dieu unique. Et dans l'Ancien Testament, cette unicité de Dieu domine incontestablement. Et c'est pourquoi dans l'Ancien Testament, si nous trouvons des vestiges et des traces et des indications pointant vers la révélation du Dieu trinitaire dans le Nouveau Testament, nous ne trouvons pas cependant un enseignement clair et net de la Trinité. L'enseignement, la révélation de la Trinité se trouve dans le Nouveau Testament, à partir de l'incarnation du Fils et de la venue du Saint-Esprit. Et cependant, dès la première page de la Bible, nous nous trouvons devant quelque chose d'assez mystérieux. Vous savez que la Bible commence en français, dans nos traductions françaises, par la parole « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Et en hébreu, le début de la Bible, c'est « Bereshit bara Elohim ». Et nous le trouvons devant quelque chose d'assez mystérieux, parce que si le verbe « bara » est à une forme du singulier, le nom de Dieu « Elohim » est indiscutablement d'une forme plurielle. Et bien sûr, nous traduisons justement au commencement « Dieu créa les cieux et la terre ». Mais on peut l'unicité de Dieu et en même temps la vie plurielle de Dieu, la vie abondante de Dieu. Car Dieu n'est pas une monade abstraite. Dieu n'est pas un solitaire. Dieu est unique, mais il est un unique d'amour, un unique de relation. Il est un unique pluriel. Et bien sûr, pour nous, les hommes, nous nous trouvons forcément devant des précisions que nous sommes obligés d'apporter à notre foi et à la confession de foi de l'Église. Et c'est ce que fait d'ailleurs la confession de foi des Églises réformées en France. En effet, les personnes dans notre vocabulaire courant, ordinaire, désignent des individus et des individus qui, en tant que tels, sont forcément séparés. Il y a un individu ici et un individu là, et puis un autre individu ailleurs encore. Et il est bien évident que si l'on parlait des personnes de la Trinité en un sens de séparation ou en un sens de juxtaposition, nous serions forcément devant une manière de trithéisme, devant une certaine foi en trois dieux. Mais la foi chrétienne en la Trinité est une foi dans le Dieu unique. Et quand il est question de personnes, il ne s'agit pas de personnes séparées, mais de personnes qui, dans leur distinction de personnes, cette distinction qui nous donne d'appeler le Père, le Fils, le Saint-Esprit, de personnes qui, dans leur distinction de personnes, possèdent une seule et même éternité, une seule et même puissance, ont une seule et même volonté, sont un seul et même être, sont l'unique et seul Dieu. Si bien que le mot « personne » est un mot que nous employons parce que l'Église ancienne l'a employé, mais que nous n'employons pas sans précision, que nous employons au contraire en précisant que si les trois personnes de la Trinité ne doivent pas être confondues, mais distinctes, elles ne sont point pourtant séparées, car la nature qu'elles ont, l'être qu'elles ont en commun est une seule et même nature, un seul et même être. Il n'y a pas en Dieu plusieurs volontés, il n'y a pas en Dieu plusieurs éternités, il n'y a pas en Dieu plusieurs puissances, il n'y a qu'un Dieu. Et si nous distinguons en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est tout simplement parce que la Bible nous le demande, parce que la Bible nous révèle qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit en Dieu. Et parce que cette révélation à la fois de l'unité de Dieu et de la Trinité des personnes nous permet de contempler en Dieu et d'adorer en Dieu celui qui est à la fois singulier et pluriel, celui qui est à la fois l'un et le multiple, celui qui à la fois est à la source de toute unité et de toute diversité, celui qui est vraiment le fondement, le créateur de tout être et de toute chose. Et c'est pourquoi, quand nous distinguons les trois personnes de la Trinité, ou les trois manières d'être de la Trinité, ou les trois subsistances de la Trinité, c'est parce que l'Écriture nous y conduit, parce que l'Écriture nous y contraint, mais nous adorons dans ce pluriel du Père, du Fils et du Saint-Esprit le seul et unique Dieu. Nous avons d'ailleurs une parole de Jésus-Christ ressuscité qui est éclairante à cet égard. C'est l'ordre que Jésus donne à ses disciples: allez annoncer l'Évangile à toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette parole de Jésus est éclairante parce que dans cette parole, Jésus ne dit pas au nom du Père et au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, mais il dit au nom, désignant là le nom ineffable, le nom unique du Dieu ineffable et unique. Il n'y a qu'un nom. Il n'y a pas d'autre nom que l'unique nom. Il n'y a pas d'autre réalité que l'unique réalité de Dieu que nous devons adorer et servir et contempler et que nous verrons face à face dans la gloire d'éternité en éternité. Il n'y a qu'un nom de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Et cependant, tout chrétien est baptisé au nom, dans le seul nom, dans le nom unique de Dieu, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole de Jésus conjoint à la fois l'unité de Dieu et la Trinité des personnes. Et c'est par fidélité à la Sainte Écriture que les réformateurs et les églises de la Réforme, que Luther et Calvin et les confessions, qu'elles soient d'Augsbourg ou qu'elles soient réformées, proclament leur foi en la Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'unique et seul Dieu glorifié à jamais. Et la Réforme n'a pas en cela suivi l'enseignement de la tradition de l'Église, encore que ce soit bien là l'enseignement de la tradition, mais ce n'est pas parce que c'était l'enseignement de la tradition, mais parce que l'enseignement de la tradition était là en accord et en soumission à la Sainte Écriture. C'est parce que la parole de Dieu nous révèle Dieu comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je dirais d'ailleurs que dans Israël et dans l'islam, c'est-à-dire dans ses descendances raciale et spirituelle d'Abraham, où le monothéisme est de rigueur, il est arrivé parfois que tel juif ou tel musulman ont saisi et senti, soit à la lecture de l'Ancien Testament pour les juifs, soit dans la contemplation d'un Dieu qui est tout de même, à travers le Coran, le Dieu de l'Ancien Testament, quelque chose de la réalité plurielle de Dieu. Et plusieurs d'entre vous savent peut-être que Louis Massignon, qui fut professeur au Collège de France et qui, sur le tard, fut ordonné prêtre selon le rite oriental, Louis Massignon a écrit la vie et exposé la pensée d'un extraordinaire mystique de l'islam, El Alaj, qui est mort martyr au sein de l'islam, enseignait cette vérité « Dieu est amour ». Et dans les entretiens qu'il avait avec les musulmans qui l'écoutaient, quand on lui posait la question « Mais tu veux dire par là que Dieu nous aime ?» El Alaj répondait « Non, bien sûr, je crois que Dieu nous aime, mais ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que, indépendamment du monde, indépendamment des hommes, avant que le monde existât, avant que les hommes fussent, dans les profondeurs de son éternité, dans sa vie intime, au-dedans de lui-même, Dieu est amour. Et c'est cet enseignement sur l'amour et la vie d'amour en Dieu, sur une vie plurielle de Dieu qui est une vie d'amour, c'est à cause de cet enseignement que finalement El Alaj fut condamné et finalement mis à mort, parce que les musulmans qui l'ont jugé et qui l'ont exécuté devinaient, pressentaient que dans cet enseignement il y avait quelque chose qui ne correspondait pas à la foi, j'allais dire, non pas monothéiste, mais monadique de l'islam. Le Dieu de l'islam est un Dieu solitaire. Le Dieu de l'islam est un Dieu qui n'a pu être amour qu'à partir du moment où il y avait des hommes à aimer. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui est amour éternellement, car éternellement le Père aime le Fils et le Fils
aiment le Père et leur amour a toute la réalité, toute la puissance de l'Esprit Saint. Dieu n'est pas amour parce qu'il nous aime, mais Dieu nous aime parce qu'il est amour. Dieu n'a pas commencé à être amour en nous aimant, mais Dieu est intimement amour. Il est amour en lui-même. Il est amour fondamentalement. Il est amour parce qu'il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'en viens maintenant à l'article 7, la création. Nous croyons que Dieu, en trois personnes coopérantes, a, par sa puissance, sa sagesse et son incompréhensible bonté, créé toutes choses, non seulement le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve, mais aussi les esprits invisibles. De ceux-ci, les uns, Satan et les démons, sont déchus et tombés dans la perdition, les autres, les anges, ont persévéré dans l'obéissance. Nous croyons que les premiers, ayant sombré dans la perversité, sont ennemis de tout bien, par conséquent de toute l'Église, et que les autres, ayant été préservés par la grâce de Dieu, sont des serviteurs chargés de glorifier son nom et de servir au salut de ses élus. Il est assez étrange et je dirais, pour ma part, il est très beau que la confession de foi de nos Églises rappelle par son insistance sur les esprits invisibles l'immensité de la création de Dieu. Quand nous pensons à l'immensité de la création de Dieu, nous pensons, surtout depuis que les découvertes télescopiques et microscopiques nous ont ouvert à l'infiniment grand et à l'infiniment petit, nous pensons à l'immensité de la création visible de Dieu. Mais si je peux dire, la confession de foi nous ouvre à l'immensité de la création invisible de Dieu. Nous connaissons un peu, et aussi peut-être de progrès en progrès et de mieux en mieux, l'immensité de la création visible de Dieu. Les découvertes de toutes sortes que l'humanité fait selon la vocation et le mandat que Dieu a donné à l'humanité au départ de son existence, ce qui nous est indiqué dans les chapitres 1 et suivants de la Genèse, je dirais que toutes ces découvertes nous montrent à quel point la création est diverse, à quel point elle s'étend vers un infiniment grand et vers un infiniment petit. Mais nous oublions que la création n'est pas seulement la création que nous pouvons explorer, que nous pouvons voir, quand, pour en voir certains aspects, nous sommes obligés de nous servir d'instruments, mais que la création de Dieu aussi contient infiniment au-delà, non seulement de tout ce que nous pouvons connaître déjà de la création visible de Dieu, mais de toute l'immensité, de toute la riche diversité de la création invisible, de ce que notre confession de foi appelle les esprits invisibles. Les anges, il nous arrive d'en parler dans la liturgie, en particulier au moment de la célébration de la Sainte Cène, lorsque nous chantons avec les séraphins et les chérubins, « Saint, 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 et l'Éternel, notre Dieu. Mais souvent nous oublions les profondeurs que sont les anges dans la création de Dieu. Et nous oublions tout ce qu'ils font au service de Dieu, tout ce qu'ils accomplissent au service de Dieu. Peut-être que notre confession de foi est particulièrement explicite, plus explicite que d'autres, au sujet des esprits invisibles. En effet, là, avec toutes les références qui nous conduisent dans l'enseignement biblique, il est question aussi bien des anges déchus qui se sont détournés de la place qui leur avait été assignée et qui, dans leur orgueil, ont cru pouvoir se rébeller contre Dieu et qui sont tombés dans la perdition. Et puis ceux qui, par la grâce de Dieu, ont persévéré dans l'obéissance et qui glorifient le nom de Dieu et servent au salut de ses élus. Mais je crois qu'il nous est bon, un instant tout au moins, de nous arrêter à cette révélation que la création de Dieu n'est pas seulement l'immense octave de la création visible, mais je dirais qu'il y a toute la création invisible que nos yeux à nous ne voient pas, que nos intelligences à nous ne comprennent pas, mais que Dieu voit et connaît, et que toute cette création invisible qui, d'une certaine manière, nous enveloppe et qui parfois nous aide selon l'ordre de Dieu, comme elle nous combat aussi, est une réalité. Et dans la Bible, il est question aussi bien des esprits qui viennent attaquer l'Église et le chrétien et qui viennent le faire trébucher dans le mal, que des esprits que Dieu vient sans que quelquefois nous nous en doutions et sans que quelquefois nous le sachions à notre aide et à notre secours, car les anges obéissent à Dieu en un clin d'œil et accomplissent parfois en un instant ce que nous ne voyons d'aucune manière et ce dont aucunement nous nous rendons compte. Ceci dit, et c'est un peu une parenthèse, nous revenons au début de cet article. D'abord, toute la Bible nous montre que ce que Dieu fait, il le fait les trois personnes coopérant. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont là, dans les premiers versets de la Genèse, à l'origine de la création du monde. Le Père ne fait rien sans le Fils et sans l'Esprit. Et le Père crée par cette parole qui, incarnée, plus tard sera notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'Esprit de Dieu est là, couvant l'abîme. Et c'est par la puissance de l'Esprit que les créatures apparaîtront chacune en son rang, à sa place, obéissant aux lois qui dirigent ses aspects propres. Et de même, dans l'œuvre de la rédemption, nous le verrons, le Père, le Fils et l'Esprit sont là. Ils sont là, coopérant lors de l'Annonciation, ils sont là, coopérant lors du baptême de notre Seigneur, elles sont là, coopérant lorsque le Fils incarné donne sa vie humaine sur la croix pour le salut du monde. Père, le Fils, le Saint-Esprit. Chaque fois que Dieu agit, dans l'ordre de la création comme dans l'ordre de la rédemption, chaque fois que Dieu agit, il agit en trois personnes coopérantes. Et tout ce qui existe n'existe dans l'unité de la création de Dieu et dans la multiplicité de la création de Dieu, parce qu'en Dieu, il y a à la fois l'un de l'être de Dieu et la diversité des personnes, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ne peut y avoir dans le domaine philosophique et dans le domaine scientifique, il ne peut y avoir aucune vue juste de l'univers créé quand celui-là même qui est l'auteur de cet univers créé n'est contemplé à la fois dans son unité et sa multiplicité. On ne peut comprendre ce qui tient tout ensemble la création et ce qui la diversifie que si d'abord on adore celui qui, dans l'unité et la trinité des personnes, est le Créateur, celui qui a fait exister tout ce qui existe. Et enfin, j'en viens pour ce cours d'aujourd'hui à la providence de Dieu. L'article 8. Nous croyons non seulement que Dieu a créé toutes choses, mais qu'il les gouverne et les conduit, disposant de tout ce qui arrive dans le monde et réglant tout selon sa volonté. Certes, nous ne croyons pas que Dieu soit l'auteur du mal, ou que la culpabilité puisse lui en être imputée, puisqu'au contraire, sa volonté est la règle souveraine et infaillible de toute droiture et de toute justice vraie. Mais Dieu dispose de moyens admirables pour se servir des démons et des impies de telle sorte qu'il sait convertir en bien le mal qu'ils font et dont ils sont coupables. Ainsi, en confessant que rien ne se fait sans la providence de Dieu, nous adorons avec humilité les secrets qui nous sont cachés, sans nous poser de questions qui nous dépassent. Au contraire, nous appliquons à notre usage personnel ce que l'Écriture sainte nous enseigne pour être en repos et en sécurité, car Dieu, à qui toutes choses sont soumises, veille sur nous d'un soin si paternel qu'il ne tombera pas un cheveu de notre tête sans sa volonté. Ce faisant, il tient en bride les démons et tous nos ennemis de sorte qu'ils ne peuvent nous faire le moindre mal sans sa permission. Ce texte est l'un des plus beaux de toute la confession de foi des Églises réformées en France. Non seulement la langue en est admirable, admirable de précision, admirable de plénitude, mais je dirais qu'il y a là un essai d'obéissance, de fidélité à l'enseignement de l'Écriture sainte, devant quoi nous ne pouvons qu'être vraiment dans l'admiration. D'abord, sont distinguées la création de Dieu et sa providence. Dieu a créé toutes choses. C'est-à-dire que l'œuvre de la création est une œuvre fondamentale, une œuvre première, l'œuvre qui nous est décrite dans les deux premiers chapitres, et en particulier dans le chapitre 1 de la Genèse. Mais Dieu n'a pas seulement à l'origine créé toute chose, mais tout ce qu'il a créé, l'ensemble de ses créatures invisibles et visibles, Dieu le gouverne et le conduit, disposant de tout ce qui arrive dans le monde et réglant tout selon sa volonté. C'est une parole d'un personnage de Bernanos, tout ce qui arrive est adorable. Et cette parole, je dirais, seul un chrétien, seul un croyant, tenu par l'Esprit de Dieu, peut vraiment, du fond de son cœur, et au milieu de tout ce qui arrive ici-bas, la prononcer. Il faut vraiment la vraie foi, une vraie foi, pour croire que non seulement Dieu a créé toute chose, mais que rien n'arrive sans sa volonté, et qu'il tient dans ses mains le gouvernement, la conduite, la disposition de toutes les créatures. Il y a là un acte qui est un acte à la fois de foi et d'adoration. Et nos pères du XVIe siècle, quand ils ont écrit ou confessé ce qui nous est dit là, ont écrit et confessé une vérité de foi. Il faut la vraie foi, don de Dieu. Il faut la foi qu'implante en nous et maintient en nous jusqu'à la fin l'Esprit Saint pour vraiment croire cela. Et je dirais que pour le pasteur que je suis, ça a toujours été une immense joie et je dirais un émerveillement quand j'ai saisi, quand j'ai vu chez un croyant, vieillard, adulte, enfant, cette vraie foi-là. Vous savez que Jésus a admiré la foi du centurion. Eh bien, à mon humble place de pasteur, il m'est souvent admiré, advenu d'admirer la foi de vrais croyants. Et je dirais de croyants dont la vie était quelquefois quelque chose de terrible, par les épreuves qui leur survenaient, par les deuils qui leur arrivaient. Job était attaqué, non seulement dans ses biens, mais dans les siens et dans sa propre chair, et Job a tenu. Eh bien, j'ai vu des hommes et des femmes, et j'ai vu des enfants tenir au milieu des pires malheurs, car ils avaient cette foi que Dieu dispose de tout ce qui arrive et règle tout selon sa volonté. Mais tout de suite après ce paragraphe, notre confession de foi affirme, attention, nous ne croyons pas que Dieu soit l'auteur du mal, ou que la culpabilité puisse lui en être imputée. Le mal, c'est ce mystère dont, je l'ai déjà dit, un des plus grands théologiens du siècle dernier disait que c'est la plus grande croix que l'intelligence chrétienne ait apportée. Le mal est mystérieux en ce sens que nous ne comprenons pas et nous ne pouvons pas comprendre comment il a pu apparaître. Nous le constatons. Il nous tombe dessus. Il pèse sur notre cœur et sur nos vies. Il y a une chose que nous savons, c'est que Dieu n'en est point l'auteur et que la culpabilité ne peut lui en être imputée. Nous savons en tout cas que pour une bonne part, le mal, c'est ce que nous faisons. Et quand nous confessons notre péché, que ce soit dans le culte de l'Église, que ce soit dans le silence de notre chambre, ou que ce soit, comme il arrive parfois, devant un ministre de Dieu pour en recevoir l'absolution, quand nous confessons nos péchés, nous savons bien que nous confessons des maux dont nous sommes coupables et que la culpabilité doit nous en être imputée. Mais il n'y a pas seulement ces maux-là, les maux de nos péchés, il y a aussi des maux dont nous ne portons pas la responsabilité, comme le mal de cet aveugle dont certains juifs disaient qu'il fallait qu'il ait commis lui-même quelque faute ou ses parents pour en être affligé, ce que Jésus rejetait. Il y a aussi des maux qui nous viennent sans que nous y soyons pour rien. Il y a ce mystère du mal. Et ce que dit notre confession de foi, c'est qu'en tout cas, Dieu n'en est pas l'auteur. La culpabilité ne peut pas lui en être imputée. D'ailleurs, la volonté de Dieu, exprimée en particulier dans les commandements de Dieu, et en particulier dans le sommaire de tous les commandements, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même », la volonté de Dieu est la règle souveraine et infaillible de toute droiture et de toute justice vraie. Dieu est saint. Les commandements de Dieu sont saints. La loi de Dieu est sainte, juste, bonne. Et si le mystère du mal est justement tellement lourd pour l'intelligence chrétienne, c'est que le chrétien sait bien que Dieu n'en est d'aucune manière l'auteur et que d'aucune manière la culpabilité ne peut lui en être imputée. Seulement, la confession de foi ajoute, Dieu cependant dispose de moyens admirables qui nous sont d'ailleurs cachés, que notre intelligence ne peut pas comprendre, mais que notre foi reconnaît. Dieu dispose de moyens admirables pour se servir de tout ce qui arrive, y compris pour se servir des démons et des impies, de telle sorte qu'il sait convertir en bien le mal qu'ils font et dont ils sont rendus coupables. Je prendrai un exemple qui est d'ailleurs biblique, que vous connaissez tous bien, mais qui me paraît à cet égard particulièrement éclairant. Il nous est dit dans le livre des Actes des Apôtres que notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. Ensuite de la culpabilité d'un certain nombre d'hommes. Et nous savons très bien quels sont certains de ces hommes. Il y a un sens, bien sûr, où tous les hommes porte une part de culpabilité dans la crucifixion de Jésus. Il y a un sens particulier, en dépit de ce que certains ont voulu dire au Concile, croyant que c'était arranger les affaires par rapport aux Juifs, alors que pour moi, c'est au contraire signifier un certain mépris des Juifs que de rejeter. Il y a un sens dans lequel les Juifs ont une culpabilité particulière dans la crucifixion de Jésus. Je dis que reconnaître la culpabilité particulière des Juifs quant à la crucifixion de Jésus, ce n'est pas jeter une opprobre sur les Juifs, mais c'est au contraire reconnaître quelque chose du mystère du peuple d'Israël. Et que c'est très dangereux d'être antisémite, mais que c'est aussi très dangereux que de dire que les Juifs n'ont pas de culpabilité particulière. Ils ont une culpabilité particulière en ce sens qu'ils étaient le peuple de Dieu. Et c'est très important aussi par rapport à nous, parce que l'Église aussi est le peuple de Dieu, et on peut dire aussi qu'il y a une culpabilité particulière des chrétiens. Mais je dirais qu'il y a des hommes dont l'action coupable nous est nettement soulignée dans l'Écriture sainte. Le traître Judas, qui pour de l'argent a vendu son maître. Pilate, le juge, qui n'a pas commis une erreur judiciaire, mais un crime judiciaire. Judas et Pilate ont coupablement voulu la livraison et la mort de Jésus. Un certain raisonnement consisterait à dire, au fond, si nous sommes sauvés par la croix de Jésus, Judas et Pilate, ils sont tout de même pour quelque chose. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible dit que Judas a voulu trahir Jésus et qu'il est coupable de trahison. Que Pilate a volontairement commis un crime judiciaire, sachant Jésus innocent et le livrant pour qu'il soit crucifié. Mais Dieu dispose de moyens admirables. Et sans que Judas et Pilate y soient pour rien, au contraire, Dieu a fait servir, malgré eux, Judas et Pilate à l'accomplissement du salut du monde. Dieu a converti en bien le mal que Judas et Pilate et les Juifs et les hommes ont fait et dont ils sont coupables. Et la foi de l'Église contemple cela, admire cela. N'admire pas, bien sûr, ce que les hommes ont coupablement fait. Mais, je dirais, ces moyens admirables dont Dieu a disposé pour changer, convertir en bien le mal fait par les hommes. Et ça, le chrétien le sait. Le chrétien sait que Dieu fait concourir toutes choses, y compris le mal, y compris les œuvres des démons et des impies, à la réalisation de son dessein éternel. Si bien que ceux-là même qui s'élèvent contre Dieu et qui combattent Dieu et qui s'opposent à Dieu concourent, quoi qu'ils en aient, et sans que cela d'ailleurs les innocente, à ce que Dieu veut faire et accomplir. Et nos pères adoraient Dieu en cela. Et en cela, nos pères suivaient ce que dit la Bible. Prenons un exemple, un autre exemple biblique sur lequel vous avez dû vous pencher au cours de ces 15 derniers jours. Exemple de Job. Dieu laisse faire Satan, permet à Satan de faire la mauvaise chose que Satan veut faire. Car ce que veut faire Satan, c'est tomber la foi de Job. Il veut que Job suive le conseil de sa femme, maudisse Dieu et meure. Voilà ce que veut Satan. Eh bien, Dieu laisse faire Satan, permet à Satan de faire ce qu'il veut faire. Et Satan ne ferait rien sans la permission de Dieu. Parce que Dieu dispose de moyens admirables pour se servir de Satan et qu'il sait convertir en bien le mal que Satan fait et dont il est coupable. C'est d'ailleurs ce que dit encore notre confession. Il tient en bride Dieu, les démons et tous nos ennemis, de sorte qu'ils ne peuvent nous faire le moindre mal
sans sa permission. Il ne sort de là aucun fatalisme. Il n'y a là-dedans aucun déterminisme. Job n'est pas une marionnette. Et le combat spirituel de Job est un combat terrible, analogue au combat de Jacob au gué de Jabbok. C'est un combat terrible. Un combat non seulement contre la chair et le sang, mais contre toutes les puissances invisibles qui campent autour de nous et nous assaillent. Et voici que Job triomphe dans ce combat. Et Job, au bout du compte, c'est une chose. C'est justement ce que nos pères savaient, exactement la même chose. Que Dieu sait ce qu'il fait, que nos discours sans intelligence ne peuvent rien modifier à cette volonté toute puissante qui fait que rien ne peut nous arriver sans la permission de Dieu.